Radio Campus. La science infuse.
Bonsoir, je suis Alix, VPG de l'association FEM.
Et Quentin, VP Cinéma de l'association Tributaire.
Nous nous retrouvons pour la seconde partie de l'émission sur le VIH.
Et nous sommes toujours en compagnie de la docteure Lucille Mollet.
Bonjour. Oui, je suis toujours là, bonjour.
Ainsi que du docteur Thierry Prazuc.
Bonjour.
Comme on l'a présenté lors de la première partie, les avancées sur la recherche sur le VIH continuent. Et il y a toujours énormément de chercheurs et de chercheuses qui recherchent pour comprendre comment fonctionne cette maladie et ce virus. Depuis quelques années, nous n'en parlons plus beaucoup, mais où en est-on de la recherche et est-ce que vous pouvez nous renseigner sur l'avancée des connaissances humaines sur le VIH ?
Oui, nous allons nous charger de cette mission. Donc, où est-ce qu'on en est exactement ? Déjà, un petit état des lieux pour savoir de quoi on parle vraiment. Donc, il y a un organisme qui dépend de l'ONU, qui s'appelle ONU-SIDA, qui est très actif au niveau de tout un tas de pays du monde, qui envoie en fait des questionnaires et qui fait un peu des analyses sur où en est l'épidémie. Et globalement, il y a plus de 80% des pays qui répondent à ces fameux questionnaires, ce qui donne vraiment une bonne image de l'épidémie. Globalement, le VIH, depuis 2020, donc ça a un petit peu augmenté depuis, on est autour de 37-38 millions de personnes à la surface du globe qui sont infectées, avec une répartition assez hétérogène, une concentration importante de personnes positives, notamment en Afrique subsaharienne. Donc ça, c'est une photo à l'instant T, les gens qui vivent avec le VIH. Et puis, il y a des données qui sont aussi importantes. C'est une estimation des nouveaux cas par an. Et donc, si on réussit bien son coup en termes de prévention, on est censé avoir de moins en moins de nouvelles personnes qui se contaminent. Et vous voyez que à l'heure actuelle, on est toujours autour de, à la surface du globe, de 2 millions de personnes tous les ans qui font nouvellement infecter. Alors vous voyez que ces 2 millions de personnes, ça regroupe à la fois les adultes et les enfants, ce qui, en ce qui concerne les enfants, veut dire que le dépistage des mamans n'est pas suffisamment bien répandu à la surface du globe et qu'ils vont l'attraper par transmission de la mère à l'enfant, puisque en fait une maman efficacement traitée a plus de charge virale et elle donne plus le virus à son enfant. Donc c'est des contaminations qui pourraient être évitées si les gens étaient traités partout de par le monde. Donc on a des nouveaux cas, des nouvelles infections. Ce que nous permet d'avoir comme renseignement l'ONU-SIDA, c'est la répartition de ces fameux nouveaux cas. Donc ça fait quand même pas mal de gens, parce que ça fait quand même 6000 nouvelles infections par jour. Et la moitié de ces infections reste en Afrique subsaharienne, ce qui explique pourquoi c'est la région du globe où il y a le plus de personnes infectées. Sur ces 6000 nouvelles infections par jour, 700 enfants, donc je vous refais pas le coup de la transmission de la mère à l'enfant, le traitement, tout ça, là, on est dedans, hein. 700 enfants infectés par jour qui n'auraient pas dû. Il reste 5300 adultes. Et ce qui est important de noter, c'est que la moitié sont des femmes ou des jeunes filles. Et un tiers ont entre 15 et 24 ans. Donc pourquoi c'est important de connaître ce genre de paramètres ? Eh bien parce que connaître les populations touchées, nouvellement infectées, ça permet de mieux communiquer et de mieux asseoir la prévention. C'est clair que si la population avait été les gens encore jeunes, de autour de 50 ans, ça aurait été différent d'une communication aux auditeurs de Radio Campus et aux gens dans la salle. Et il y a des femmes. on n'est plus dans une maladie, comme vous disait le docteur Prazuc dans le premier épisode du podcast, avec une infection qui touche les homosexuels qui sont stigmatisés, les homosexuels hommes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire des campagnes. Chaque minute, une jeune femme est infectée par le VIH. Donc vous voyez le stress qui monte. Hein. On était parents, puis on est passé par minutes. Et une femme infectée toutes les minutes, ça fait quand même beaucoup de femmes. On assoit également autour de ça tout un tas d'analyses socio-économiques. Ce qui est intéressant dans le domaine du VIH, c'est qu'en fait, tous les domaines de recherche peuvent travailler ensemble. Tout à l'heure, dans la première partie du podcast, on a travaillé avec l'éthologie et les chimpanzés. On a fait de la biologie moléculaire et l'horloge moléculaire. Et puis, on peut faire de la sociologie, en fait, aussi. Hein. 40% des jeunes femmes à la surface du globe rapportent que leur premier rapport sexuel n'était pas un rapport consenti. Donc ça fait partie des choses qui n'aident pas. Voilà. Et si vous vous souvenez, 33%, donc un tiers, ont entre 15 et 25 ans. Donc pour, j'ai mon petit quiz favori, que les étudiants de L3 Sciences de la vie qui prennent l'option virologie connaissent. Mais que je vais vous refaire, parce que c'est quand même assez frappant. Donc tous les ans, SIDAction font des sondages auprès des jeunes, puisque un tiers des jeunes, patati patata. Et donc, une des questions qui a été posée aux 15-25 ans, c'est selon vous, le virus du SIDA peut-il être transmis ? Donc il y a plusieurs cas de figure, et on peut choisir un ou plusieurs cas. Donc dans ce qui est noté, il y a en se faisant piquer avec une seringue, usagée, contaminée bien sûr, hein, en rentrant en contact avec le sang d'une autre personne, en se faisant tatouer, en s'embrassant, en s'asseyant sur un siège de toilette publique, en rentrant en contact avec la transpiration de quelqu'un, en buvant un verre d'eau ou en serrant la main d'une autre personne. Donc ce qui fait un peu peur, c'est que 6% des 15-25 ans pensent qu'en serrant la main de quelqu'un, on va attraper le VIH. Et 10%, un petit peu plus de 10% quand on boit dans le verre ou suite à la transpiration. Bref, c'est assez alarmant et ça vous amène progressivement à comprendre ce que va vous expliquer le docteur Prazuc tout à l'heure autour des problèmes de discrimination. Parce que quand on est aussi mal informé que ça, forcément, ça crée du grabuge. Donc les bons résultats, hein, c'est se faire piquer par une seringue usagée, rentrer en contact avec le sang d'une personne qui est non traitée et éventuellement se faisant tatouer ou des piercings avec du matériel à usage non stérile. Voilà. La deuxième, elle est pas mal aussi. Je l'aime beaucoup. Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait ou plutôt efficace ou plutôt pas du tout efficace pour empêcher la transmission ? Et donc, on a préservatif masculin, préservatif féminin, la pilule contraceptive d'urgence, hein, la pilule du lendemain, hein, à ne pas confondre avec la pilule contraceptive classique. Hein, on le sait bien que les deux ont des différences de protection contre le VIH. Le produit de toilette intime, également très efficace, ainsi que le comprimé de paracétamol. Alors, tenez-vous bien, mais il y a encore 6% des mini-vous, puisqu'on est dans les 15-25 ans, qui pensent que le comprimé de paracétamol est très efficace pour se protéger de la transmission du VIH. Et la pilule contraceptive, un petit peu moins, 14%, par rapport à la pilule d'urgence à 17%. Donc, on est quand même mal barré avec des trucs comme ça, et il faudrait un peu relancer la prévention. Parce que si vous regardez un petit peu ce graphe, en haut, vous avez l'évolution des nouveaux cas. Et puis, avec une chute dans les années 90, en fait, cette chute des nouveaux cas tombe avec la prévention. Alors que la chute des décès, eh bien, elle ne tombe pas avec la prévention. Ce qui permet au nombre de décès de diminuer, c'est l'apparition des traitements efficaces. Parce qu'avant ces traitements efficaces, On était face à une maladie incurable, irréversible, mortelle et stigmatisante. Donc, dans la première partie du podcast, le docteur Prazuk vous a parlé du cancer gay. J'ai une petite affection, pas du tout, contre également la terminologie maladie des 4 H. Et donc, si vous réfléchissez aux 4 H, on a les homosexuels, les hémophiles, qui ont été aussi assez stigmatisés à une époque, les héroïnomanes et les derniers qui avaient rien demandé, les haïtiens, qui sont le 4e H.
L'espérance de vie, effectivement, la mortalité, c'est une maladie mortelle dans 100, alors peut-être pas 100% des cas, parce que il y a de rares cas qui sont des patients qui sont, qu'on appelle les contrôleurs naturels du VIH, ça représente 0,3% des patients. Il y a encore des patients qui ne peuvent pas être infectés par le VIH, hein, ce sont des patients qui ont une mutation génétique, ce sont des Européens, et c'est une mutation qui date de l'an 300 ou 400 après Jésus-Christ, donc au moment des invasions barbares. Bref, tous les autres, ils meurent au bout d'un certain temps, au bout de 3 à 10, 15, même 20 ans. Mais malheureusement, l'évolution, donc les patients qui nous disent « Oh, je vais arrêter mon traitement parce que je vais aller à l'église et je vais prier et là, je vais guérir du sida. » Bon, bah, si vous voulez, donc vous arrêtez le traitement, on refait une charge virale, bah, vous voyez, madame, je dis madame parce que souvent c'est plutôt des dames qui vont à l'église, la charge virale est bien remontée, donc vous n'avez pas guéri du sida. Il faut parfois plusieurs épisodes de discussion pour pouvoir convaincre les personnes qu'elles sont réellement malades et que si elles ne font rien, elles vont décéder. J'ai vu une de mes patientes, là, ça fait depuis 2014, je la vois, et à l'époque, elle voulait pas prendre de traitement. Elle est pas africaine, elle était, je crois, institutrice. Elle dit, non, moi, je vais, mon corps va résister. Et puis, ça s'est dégradé. Et puis, à un moment, je l'ai vue, et j'ai fait en sorte que ce soit elle qui prenne la décision de prendre le traitement, et pas moi qui le lui impose. Et alors maintenant, elle va très bien. Et finalement, c'est une relation qu'on a avec des patients qu'on suit depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans. On se voyait vieillir. Tiens, l'autre jour, aujourd'hui, j'en ai vu un qui m'a dit, j'ai un de mes patients, il habite en Alaska. Il est venu me voir aujourd'hui. Et donc, il me dit, je lui dis, j'ai 10 ans de plus que vous. Elle me dit, vous allez bientôt partir à la retraite. Donc il a peur que je parte à la retraite parce que ça fait 25 ans que je le suis. Bon, je dis non, vous inquiétez pas. Bon, donc il y a eu donc cette mortalité qui a touché énormément de patients en Afrique, notamment en Afrique australe et dans le KwaZulu Natal, donc en Afrique du Sud. On a vu apparaître à partir de 2004 une remontée de l'espérance de vie. Cette montée de l'espérance de vie, en Europe et aux États-Unis, elle est apparue en 95. Vous voyez, il a fallu 10 ans pour que les traitements soient efficaces, soient accessibles en Afrique. Et c'était en 2004, c'était des traitements que les Africains pouvaient avoir, mais que nous, on avait déjà abandonnés parce qu'ils étaient toxiques. Aujourd'hui, les choses ont quand même globalement changé. On peut dire que les traitements qui sont disponibles en Afrique sont à peu près similaires à ceux qu'on a en France. Donc, c'est une bonne chose, mais 10 ans d'écart, 10 ans encore, même plus, 15 ans pour avoir des traitements à peu près similaires. Vous voyez le décalage qu'il peut y avoir entre les continents. Donc, dépister et traiter plus tôt, voilà, aller vers des populations clés, ne laisser personne en chemin. Donc aujourd'hui, en France, on a environ 6000 contaminations par an. Ça ne bouge plus beaucoup. Hein. À Orléans, on suit environ 1250 patients infectés par le VIH. Et je peux dire que presque toutes les semaines, j'ai des nouveaux patients. À Orléans. Hein. Alors, ça peut être des patients qui déménagent, mais ça peut être aussi des patients qui viennent d'être infectés. Et j'en ai régulièrement, tous les mois, des nouvelles personnes qui sont infectées. Et pas que des gays, et pas que des Africains. J'étais en vacances la semaine dernière, la semaine d'avant, je vois une personne qui m'est adressée par un médecin traitant parce qu'il a une sérologie positive, douteuse. Je le vois, il a le surlendemain, je rencontre les personnes, donc c'était un monsieur, 23 ans, et sa compagne, 27 ans. Et je dis, bon, a priori, ils sont en couple, deux possibilités. Soit c'est un faux positif, il y a des tests faussement positifs en ELISA, hein, le test de dépistage. Soit c'est une primo-infection, ça veut dire qu'il était contaminé récemment. Et donc, j'interroge pour savoir ses pratiques sexuelles. Ils sont ensemble depuis 2 ans. Ils ont des relations non protégées. Il n'y a pas de problème. Ils ne comprennent pas vraiment. Bon, non, mais c'est peut-être un faux positif. Je fais un test rapide. Là, j'ai le résultat dans la minute. Même pas dans les 30 secondes qui suivent. Le test rapide. L'autotest que vous pouvez avoir en pharmacie. Que vous pouvez acheter sans ordonnance. Positif. Ah, là, les test rapide faussement positif, c'est plus rare que les ELISA positifs. Faussement positif, il y en a plus en ELISA. Donc là, je me dis, il y a quelque chose, j'appelle le labo, etc. Et puis, madame, on va vous tester. Ah, moi, j'ai fait le test il y a 5 ans, c'était négatif. Bon, fait le test il y a 5 ans, et là, je lui fais le test rapide. Waouh, positif tout de suite. Alors là, deux mauvaises nouvelles. Donc le monsieur, il était en primo-infection, donc il était contaminé depuis 3 semaines, alors que ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble. Et c'est elle qui l'a contaminé. Que s'est-il passé? Ah non, non, il y a 1 an, on regarde l'historique dans le labo. La dame, infection à chlamydia, infection à gono. Elle ne l'a pas dit à son compagnon. Donc voilà, le problème, c'est le suivant. C'est qu'elle, elle va voir ailleurs. Ok, très bien. Et elle se fait pas retester. Mais vous voyez, pendant 2 ans, ils ont eu des relations sexuelles. Il n'a pas été contaminé. Il a été contaminé. Pourquoi? Parce que le risque de contamination au cours d'un rapport sexuel non protégé avec quelqu'un de séropositif, c'est combien? C'est 100%? C'est 50%? C'est 1%? C'est 0,1%? Vous connaissez la réponse? Alors, dans le sens femme-homme, femme positive, homme négatif, c'est environ 3 pour 1000. D'accord? Dans le sens homme-femme, c'est 5 fois plus. Les rapports anaux sont beaucoup plus contaminants que les rapports vaginaux. Parce que le vagin, il se défend naturellement contre un certain nombre de pathogènes. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Parce qu'ils ont commencé à avoir des relations sans préservatif. C'est quoi le truc? Bah non, non, mais moi je suis clean. Toi aussi? Bah moi aussi je suis clean. Bon, bah ok, on peut y aller. Bah c'est pas ça le truc. Je ne te fais pas confiance. Ah oui, je t'aime, mais je ne te fais quand même pas confiance. Montre-moi le résultat. Ou alors on fait le test ensemble et on voit le résultat. Parce que sinon, voilà, ce qui se passe, c'est que vous vous faites berner. Vous, les jeunes, vous acceptez d'avoir des relations sans préservatif, sans avoir fait les tests chlamydia, gono, VIH, et j'espère que vous êtes vaccinés contre les hépatites. Mais ne faites pas confiance tant que vous n'avez pas vu le résultat sur le papier. C'est vraiment essentiel. Là, bah, ils auraient fait... alors évidemment, là, manifestement, elle est peut-être allée voir ailleurs. Hein, certainement, d'ailleurs. Et je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été contaminée, si c'était avant les 2 ans ou autre. Bon, à la limite, moi, c'est pas mon problème. Le problème, c'est que là, c'était quelque chose qui pouvait être évitable, puisque si la compagne, elle avait été diagnostiquée et traitée, elle n'aurait pas contaminé son compagnon. Voilà. Alors, le risque de contracter le virus, hein, donc voilà, il est 35 fois plus élevé lorsqu'on utilise des drogues. Les professionnels du sexe, 30 fois plus. Les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, parce que la muqueuse anale, elle est super vascularisée. Et en fait, il n'y a pas de protection comme la muqueuse vaginale, qui est un système immunitaire à part entière, hein, contrairement à la muqueuse anale. Donc, les relations anales ne sont pas réservées qu'aux hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, bien sûr. Alors, les découvertes de contamination aujourd'hui, eh bien, effectivement, c'est quand même dans la population gay. et dans la population africaine notamment qui arrive en France. Alors on dit que sur le trajet migratoire, hein, il y a aussi des abus sexuels, des sévices, etc., et des personnes qui ont été contaminées, mais il y a également des contaminations autochtones pendant la première année de séjour en France, parce qu'également il y a une précarité qui fait que il y a plus de prise de risque. Voilà. Et les hommes hétérosexuels nés à l'étranger, donc diminution, parce que il y a une diminution de la migration. Avec la loi immigration, ça va être encore plus caractéristique, probablement. Puisqu'on aura beaucoup moins de personnes qui vont venir. Donc la prévalence, vous voyez que la prévalence dans la population générale, en France, c'est 0,3-0,4%. Donc 3 pour 1000. Hein, c'est quand même plus que de gagner à l'euro million. Hein, c'est à 1 pour 50 millions, à peu près. Donc, alors, vous voyez les différences qu'il peut y avoir, notamment avec la population HSH, où la prévalence est de 17%. Elle était même de 30% dans certains milieux gays à Paris. Et puis, dans la population des usagers de drogue, alors plus aujourd'hui, ils ne se contaminent plus, ils se contaminent avec l'hépatite C par l'utilisation de paille, notamment. Hein, mais elle est à peu près similaire. Alors que vous voyez que dans la population hétérosexuelle française, des femmes, on est à 0,12%. Le temps médian entre la contamination et le diagnostic qui va être fait soit à l'occasion d'un dépistage parce que bah, y a une grossesse, parce que éventuellement il y a un mariage. Bon, le mariage, avant c'était obligatoire de faire le dépistage VIH avant le mariage, maintenant ça ne l'est plus. Eh bien, ou alors parce que la personne est malade. Eh bien, à ce délai, il est d'environ 3 ans. Donc 3 ans sans savoir qu'on est contaminé et qu'on va transmettre. Dès qu'on le sait, on va le voir, c'est ce qu'on appelle... Alors ça, je vais peut-être le passer parce que on n'est pas en avance. C'est la cascade de prise en charge. Hein. La cascade de prise en charge, c'est le nombre de personnes qui sont réellement infectées en France, le nombre de personnes qui sont diagnostiquées, donc 84% sont diagnostiquées, donc il y en a 16% qui ne le savent pas. D'accord ? Ensuite, ceux qui sont sous traitement. Donc c'est cette épidémie cachée, la partie immergé de l'iceberg, ça représente quand même 24 800 personnes. Alors, c'est des calculs mathématiques hein, qui sont faits à partir de la prévalence dans les différents groupes, homosexuels ou personnes d'origine africaine. Combien on devrait en avoir et combien on en a réellement sur les statistiques nationales. Donc, il en manque 24 600. Ensuite, c'est les personnes qui sont mises sous traitement, 75%. Donc ceux-là, à partir de là, ils ne transmettent plus le virus, puisque, a priori, leur charge virale va être indétectable. Donc, vous voyez, dans 90% des cas, ils ont une charge virale indétectable.
Donc, il y a une étude qui a été lancée par le docteur Prasu, qui est un de ses collaborateurs les plus proches, Laurent Auclou, sur le moment à laquelle le traitement est donné. Et en fait, il y a quelques instants, il vous parlait du diagnostic et du diagnostic en primo-infection. Donc, ça veut dire pas très longtemps après la contamination, plutôt qu'attendre un an, 2 ans après. Et donc, l'étude qui a été réalisée à Orléans, initialement sur 14 personnes détecté positif pendant cette fameuse phase de primo-infection, c'est-à-dire grosso modo dans le premier mois après l'événement contaminant. Et là, ce qui se passe, c'est que les personnes ont été placées tout de suite sous trithérapie efficace. L'étude était dessinée comme ça. Donc une prise de traitement efficace. Au niveau de l'étude, je me rappelle plus pendant combien de temps. L'exemple ici, c'est de 6 ans. Et puis, le traitement est arrêté. Et ce qui est assez impressionnant dans cette étude, c'est que dans l'exemple que vous voyez là, on arrête le traitement, mais le virus ne remonte pas. Ce qui est complètement différent de ce qui se passe quand les patients ont un traitement, quand la maladie elle est installée. Quand la maladie elle est installée, vous prenez le traitement et vous êtes obligé de le prendre à vie. Pourquoi ? Parce que le virus est caché dans des réservoirs qui se sont établis pendant cette fameuse primo-infection, avant que le système immunitaire se mette en route et avant que les CD8 tueurs se mettent à tuer les cellules infectées et à éliminer le virus. Eh bien, le virus en profite pour aller établir des réservoirs à plusieurs endroits cachés dans le corps. Et donc, ici, il se trouve que chez ce patient qui est présenté là, le fait de prendre un traitement pendant plusieurs années, juste à la primo-infection, on arrête le traitement et le virus ne ressort pas. Ça veut dire que les gens vont se retrouver un peu à l'équivalent des contrôleurs naturels dont le docteur Prasuc vous parlait tout à l'heure. Et sur cette première étude, vous voyez, il y a un certain nombre de patients, les 14 là. Et en fait, ça a marché chez 10 d'entre eux. Pour 10 personnes qui se sont dit « Ah bah tiens, j'ai eu un comportement à risque là, si j'allais me faire dépister. » Et puis qui y sont allés et qui s'est avéré que le comportement était à risque et qui ont donc pris un traitement tout de suite pendant la primo-infection. Et ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'on empêche le virus de galoper partout, d'établir des réservoirs partout dans le corps. Et après, un petit temps, alors qui se compte en années, 2, 3, 6 ans de traitement, on peut arrêter le traitement et le système immunitaire de la personne contrôle. Donc il y a eu un suivi au long cours. En 2015, globalement, pour vous donner une idée, sur les 20 patients qui avaient été suivis la suite de cette étude-là, de cette façon-là, on avait une médiane de rémission, c'est-à-dire de non-ressortie du virus, de contrôle naturel qui s'était fait pendant 9 ans, avec, grosso modo, des personnes qui avaient pris un traitement pendant la primo-infection et 4 ans. Donc, prise du traitement pendant la primo-infection, pendant 4 ans, et le virus contrôlé pour beaucoup d'entre eux pendant quasi 10 ans, quoi. Donc, si on revient à cette fameuse cascade de prise en charge que vous présentait le docteur Prasuc, il est clair que de pas se faire dépister, ça peut revenir à avoir un certain nombre de pertes de chance, puisque plus l'infection est connue tôt, plus on peut vous donner le traitement tôt et vous permettre de contrôler sans traitement, bon, en étant suivi, bien entendu, quand même. Hein. Mais on a de meilleures réponses au traitement. Et puis, surtout, lorsque il n'y a pas de charge virale et que le virus est contrôlé, eh bien, vous n'êtes plus en mesure de transmettre l'infection. C'est ce fameux U égale U. Pas de transmission quand le virus est indétectable.
Alors oui, je voudrais juste apporter une précision par rapport à ce qu'on a fait à Orléans. C'était pas une étude prospective, hein. C'était une étude rétrospective. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que à Orléans, on est un peu des pirates. On suit pas les recommandations. Donc à l'époque, il ne fallait pas traiter la primo-infection. Et tous ces patients, ils avaient une primo-infection symptomatique. Alors que les contrôleurs naturels, ils n'ont pas de primo-infection symptomatique. J'ai une patiente, elle avait 1 million de charges virales et elle était vraiment malade quand elle a fait la primo-infection. Et on l'a dépistée dans les 3-4 semaines après la contamination. Et on a traité, alors qu'on dit non, faut pas traiter, ou éventuellement vous pouvez traiter, mais au bout d'un mois, vous arrêtez le traitement. Donc, ok, mais nous, on croit à autre chose, enfin voilà, ça ne nous semble plus rationnel, hein. Il y a l'empirisme et le rationalisme. Le rationalisme, c'est bien français, on se dit tiens, là il me semble que voilà. Et puis ensuite il y a eu une mode dans les années 2004, 95, on a les traitements, la trithérapie, mais elle est lourde, il y a beaucoup de comprimés à prendre. Et dans les années 2000, 2003, 2004, les patients, ils en ont marre. Et puis, ils ont des toxicités. Vous verrez, les lipoatrophies du visage. Donc, il y a des effets toxiques des traitements. et ils ont envie de vacances. Je veux les vacances. Ok, donc un certain nombre de centres, et nous on a été volontaires parmi les premiers à dire, ok, on fait des vacances thérapeutiques. On surveille les lymphocytes CD4, dès qu'ils retombent en dessous de 350, on reprend le traitement. Et donc on a pu arrêter le traitement à un certain nombre de personnes qui étaient remontées à 700, 800 CD4. Ok, vous soufflez pendant un certain nombre de mois, alors aujourd'hui on le ferait plus, parce qu'on sait que le virus revient, c'est de l'inflammation chronique qui revient, ça remet tout le système immunitaire. Bon, donc on le fait plus parce que les traitements sont beaucoup plus simples et ils sont beaucoup moins toxiques. Ok ? Mais ça nous a permis de dire, ah tiens, et comment ça se fait que votre charge virale, elle ne remonte pas ? Donc on a analysé, on a regardé, ah mais tiens, ils ont tous été traités. Ah, donc j'en ai eu 3 ici à Orléans, donc je suis allé les présenter à Paris, ils m'ont dit non, non, vos patients ils n'existent pas, parce que s'ils existaient, nous, à Paris, vous pensez bien, on les aurait vus.
On est trop fort à Paris.
Voilà. Donc, et donc, je suis allé voir Christine Rousiou. Parce qu'à la Pitié-Salpêtrière, elle me disait non, c'est pas possible. Et Christine Rousiou, elle m'a pris au sérieux. Christine Rousiou, elle était dans le papier de découverte du VIH. Et on a travaillé ensemble avec Véronique Avetan-Fenoël, qui est la nouvelle professeure de virologie, qui est maintenant Orléans, et qui était la responsable de l'Institut Cochin. Et donc, qui travaille sur les réservoirs. Donc, vous voyez, c'est un peu. La recherche, ça se nourrit d'observations qu'on fait au jour le jour en voyant les patients. Et après, c'est la collaboration qu'on fait avec les scientifiques, comme Lucille, comme Véronique, comme Christine Rousiou, qui nous permettent de dire « Ah là, on a une hypothèse. Ah, peut-être qu'on se trompe, mais peut-être qu'il y a quelque chose dessous. » Donc c'est vraiment cette recherche translationnelle qui va d'abord de l'observation clinique vers la cellule, puis qui va retourner après peut-être avec des modèles animaux chez chez l'humain.
Est-ce que le public a quelques questions ? Oui. Donc il y a une personne du public qui demande pourquoi on passe de 84% à 74%.
Alors on passe de 84 à 75, parce que un, il y a le délai entre le moment où on fait le diagnostic et le moment où on met sous traitement. Parfois, il faut attendre un mois. Maintenant, on le fait de plus en plus rapidement, hein, mais des patients qui sont en phase chronique, qui ont le VIH depuis longtemps, qui ont des CD4 qui sont bons, donc ils n'ont pas d'immunodépression, il faut qu'on fasse des analyses, notamment le génotype du virus, pour savoir si le virus il est résistant à certains médicaments, de manière à donner le traitement de façon optimale. Puis il y a des patients qui sont des contrôleurs naturels du VIH, puis il y a des patients sont diagnostiqués mais qui refusent de prendre le traitement et donc qui sont en dehors du système de soins. Donc tout ça additionné, ça fait 9% des patients. Hein, mais il y a parmi ces 9%, il y en a quand même un certain nombre qui vont être mis sous traitement assez rapidement. Et après, la différence entre 75 et 68, c'est que la charge virale, elle va, on va le voir, elle baisse, mais elle devient indétectable entre 3 mois et 12 mois après l'initiation du traitement.
Du coup, moi, ma question, c'était de savoir si c'était fréquent d'avoir des symptômes durant la primo-infection, et que si c'est le cas, pourquoi est-ce que c'est que maintenant on commence à se pencher sur un traitement durant cette période-là ?
Alors, avec les études qu'on a réalisées, la cohorte Visconti, donc il y a plus de 20 patients en Europe, hein, il y a une cohorte Visconti Europe actuellement avec une cinquantaine de patients. Hein, vous voyez, les Américains, eux, ils communiquent sur les patients qui ont été greffés, greffe de moelle et qui sont guéris. Ils veulent pas entendre parler de nos patients, alors que ceux-là sont en rémission complète. Hein, mais c'est quasiment la même chose. Depuis, le traitement en primo-infection, il est recommandé, bien évidemment, depuis 10 ans. Hein, mais c'est suite à ces résultats. La primo-infection, elle est symptomatique dans environ 1 cas sur 2. Mais quelquefois, ça, c'est une angine qui va durer 15 jours, 3 semaines. Donc, on va peut-être pas faire attention. Hein. Donc, ça peut être une éruption de bouton. Ça peut être quelque chose de très symptomatique ou de pas du tout symptomatique ou entre les deux. Et pourquoi c'était pas recommandé ? Pour deux raisons. C'est parce que les traitements étaient toxiques. Et donc on se disait, on va attendre le plus longtemps possible pour donner le traitement, pour pas mettre le patient en danger. Et donc à un moment, l'autorisation de mettre les patients sous traitement, c'était 200 CD4. Au-dessus, on n'avait quasiment pas le droit. Puis après, c'est monté à 350. Parce que 350, on savait que, mais entre 200 et 350, on peut quand même faire un zona, on peut faire une pneumocystose aussi. Et puis après, c'est passé à 500. Mais ça, ça s'est passé sur 6-7 ans. Et puis après, c'est passé à tout le monde. Mais il a fallu, entre 1995 et, on va dire, 2000, c'est quoi, 2010, on est passé de « vous ne donnez les traitements qu'à partir de 200 » à « vous donnez les traitements à tout le monde ». Parce que on a accumulé des données en disant plus les traitements, moins les traitements étaient toxiques et plus ça valait le coup. Et puis il y avait surtout le U égale U qu'on connaissait pas à l'époque. Vous n'avez les patients qui donc étaient porteurs du VIH non traité, ils continuaient à transmettre. Donc on est passé dans un autre paradigme qui était de dire bon ben déjà tout cela on les connaît, ils sont traités et ils ne vont plus. On va casser la chaîne de transmission. Voilà. Mais voilà, il y avait beaucoup de choses. Enfin, on a appris à connaître. Hein.
C'est la fin de ce deuxième épisode sur cette série de podcasts sur le VIH, dans le cadre d'une conférence sur le VIH organisée par Tributaire avec FEM, avec le docteur Thierry Prazuc et le docteur Lucille Mollet. Merci à tous nos éditeurs et auditrices.
Vous pourrez réécouter cet épisode et la série de 4 épisodes sur orléans.radiocampus.org dans la catégorie La science infuse. Vous pourrez également retrouver les différents réseaux sociaux sur Instagram, fem.45, tribu.terre et radio_campus_orléans. Dans le prochain épisode, nous parlerons du contexte social, de la mortalité et espérance de vie des personnes atteintes du VIH.
Radio Campus. La science infuse.
I'm going?
Yeah, let's go.
Okay.
You should know it. If you're missing me a lot, then I guess that you're in luck, cause here I am again. And guess what, I'm alive. Yeah, I guess I never left. And I thought you should know it. If you're missing me a lot, then I guess that you're in luck, cause here I am again. And I'm all out of breath, I'm out of air. I should go, but I just sit and stare. When you come out, I will still be there. I'm a coward in a coward chair. Do you reckon we will reconcile? Back for seconds for a second time. I thought that it was over, you're so hard to get over. I need to not see you for a while. Guess what, I'm alive, yeah, guess I'm still alive. And I thought you should know it. If you're missing me a lot, then I guess that you're in luck, cause here I am again. And guess what, I'm alive, yeah, I guess I never left. And I thought you should know it. If you're missing me a lot, then I guess that you're in luck, cause here I am again. I'm not gonna say you condescend, but you ascend while I just kinda sit. Have a couple verses and a bridge. I need to not see you for a bit. Making conversation like it helps. Meeting up with strangers like it helps. Go and start the decade without me, and that's okay. If you're looking for me, I'll be here. Guess what, I'm alive, yeah, guess I'm still alive. And I thought you should know it. If you're missing me a lot, then I guess that you're in luck, cause here I am again. Guess what, I'm alive, yeah, guess I never left. And I thought you should know it. If you're missing me a lot, then I guess that you're in luck, cause here I am again.
Et on sait que les soldats disent maman en mourant sur les champs de bataille.
Et si vous deviez vous retourner un peu sur vos souvenirs, est-ce que vous en avez un, peut-être en particulier, qui vous ancre ?
Penser cette question, ça rend fou. Pas y penser, ça rend fou aussi.
On est là ? Vous savez, c'est pas le choix.
Je pense que c'est assez naturel, c'est assez logique de ressentir ça. Même moi, s'il m'arrive de le ressentir, le problème, c'est quand ça devient pathologique, c'est quand on reste bloqué là-dedans. Après, ça dépend de notre degré de confiance en la science.
Et là, m'est revenue cette question. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi, Anne, que tu voudrais transmettre à ton fils ?
Donc ça, c'est fascinant. Parce que quand les gens arrivent chez nous, ça se voit pas, mais il y a tous les ancêtres sous le bureau.
Au début de la vie, il y a le toucher comme première possibilité de se sentir dans l'espace, de savoir qu'on vit.
Les vannes sont absolument hermétiques et toutes les odeurs sont écartées grâce à un procédé nouveau.
Le génome est un destin, non ? Ça se travaille.
Sentez l'épaisseur du matelas. Voilà, et sentez que ce matelas, il porte Claire et votre enfant.
Nos cerveaux à tous, le vôtre, le mien, ceux qui nous écoutent, ne seront pas les mêmes ce soir qu'ils étaient ce matin, parce qu'on aura vécu des choses.
Ah ! Et je souris.
Et la seule chose qui m'est apparue de manière éblouissante, c'est que j'étais aimée. Je n'étais pas seule, j'étais aimée par quelqu'un.